Et tenez, c'est à Bernard et Bianca qu'il revient de lancer l'émission.
Le capitaine Orville vous salue. Bienvenue à bord de l'Albatros. Veuillez attacher vos ceintures et ne pas fumer pendant le décollage. Détendez-vous et faites confiance au pilote.
Rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Citation de Victor Hugo qui est l'une des maximes de mon invité. Son idée à lui, son idée dont l'heure était venue, c'était de faire le tour du monde dans un avion propre, de fendre les airs uniquement grâce à l'énergie solaire. Eh bien, l'été dernier, après des années d'embûches, c'était chose faite. Lui et André Borschberg ont parcouru près de 40 000 km avec le soleil pour seul carburant. J'ai le grand plaisir de recevoir Bertrand Piccard, le pilote de Solar Impulse. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur France Inter.
Avec
Merci
plaisir.
D'être là. Vous êtes un fan de Bernard et Bianca, apparemment.
Ah, j'ai regardé ça avec mes enfants, bien sûr, mais il y a des manières plus efficaces de voler maintenant.
La fin du tour du monde l'été dernier n'était en réalité que le début de l'aventure. Vous avez décidé de repérer et de fédérer les bonnes volontés, ceux qui se remontent les manches pour protéger la planète. Vous recensez en ce moment 1000 solutions pour un monde durable. On va en parler. On va se pencher aussi sur la mobilité aérienne du futur. Les avions seront-ils bientôt électriques? Que faut-il penser des taxis volants qu'on nous promet pour demain et du grand retour du dirigeable? Bref, à quoi ressembleront les nouveaux rêves d'Icar? Bienvenue à tous.
Lisez-moi donc la checklist, petit gars.
Ah, oui. Lunettes en place.
Ok.
Volet position décollage.
Ok.
Gouvernail.
Ok, à droite et à gauche.
Si vous ne réussissez pas à décoller du premier coup, recommencez.
Et c'est parti!
Demain la veille, l'émission qui raconte le futur avec Dorothée Barba sur France Inter.
Il est psychiatre, hypnothérapeute, pilote. Bertrand Piccard, vous êtes aussi le descendant d'une longue dynastie d'aventuriers. Votre grand-père, Auguste Piccard, a été le premier à atteindre la stratosphère à bord d'un ballon. Votre père, Jacques Piccard, est descendu, lui, à plus de 10 000 mètres de profondeur sous l'eau, grâce à un bathyscaphe, et vous avez réussi à vous faire un prénom, finalement, dans cette famille. Est-ce que vous auriez pu échapper à cette hérédité?
J'aurais pu, parce que je pense que on a une certaine liberté dans la vie, mais j'aurais trouvé dommage, avec les opportunités que ma famille m'amenait, de ne pas continuer ce travail. C'est un héritage d'exploration scientifique au profit de l'environnement. Quand mon grand-père est monté dans la stratosphère, c'était pour montrer que l'aviation pouvait voler plus haut dans de l'air moins dense en consommant moins d'essence. Quand mon père a plongé dans la fosse des Mariannes, c'était pour montrer qu'il y avait de la vie dans les profondeurs les plus extrêmes et qu'il était aberrant d'y jeter les déchets radioactifs comme ce que les gouvernements voulaient faire. Donc c'est ces exemples-là que j'ai eus et que j'ai voulu continuer, mais à ma manière.
L'exploration n'est jamais une fin en soi.
Non, l'exploration doit avoir un sens, elle doit être utile. Sinon, c'est que de l'aventure. L'aventure, c'est très sympa. Quand j'ai fait le tour du monde en ballon sans escale, c'était la première fois que ça se faisait. C'était un rêve personnel, c'était de l'aventure. Solar Impulse, c'est de l'exploration parce que ça a un sens, ça a une utilité que les autres peuvent reprendre pour aller plus loin. C'est une étape seulement.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Bertrand Piccard, j'aimerais qu'on écoute un petit florilège de notre bocal, parce que c'est la dernière émission de la saison aujourd'hui, et on a pris l'habitude chaque semaine de demander aux invités ce qui va disparaître dans le futur selon eux, histoire de dessiner finalement un futur en creux, hein, en négatif. Vous aussi, vous passerez par le bocal en fin d'émission, évidemment. Voici quelques-unes des réponses entendues cette année.
Moi, je mets mon stylo.
Moi, je vais vous demander tous d'arracher un cheveu et de le mettre dans le bocal.
On s'exécute.
Ce sera la trace ADN de la dernière génération de l'espèce humaine bio. Probablement, c'est même quasiment sûr, la prochaine génération sera modifiée.
Au moins un tout petit objet qu'on me donne très souvent, qui est encore utilisé maintenant. J'arrive pas à savoir trop à quoi ça sert. C'est une carte de visite.
Moi, je dirais Dieu. Un dieu qui existe vraiment et qui décide du paradis ou de l'enfer après la mort. Je voudrais bien que ça s'arrête. C'est moins un pronostic qu'un vœu pieux.
Moi, devoir conjugal.
Parce qu'en vrai, je pense qu'il faut avoir des rapports sexuels quand on a envie et que c'est jamais un devoir.
Je crois qu'on peut décemment y mettre le CDI. La sécurité psychologique et matérielle, ça n'existera plus.
Ah, moi, je pense que le film pornographique va disparaître. Je pense que ça va laisser place à une forme de sexualité virtuelle. Je vois aujourd'hui ce qui se développe, par exemple, c'est le live camming avec des filles en hologramme.
Une banane. J'ai lu récemment que la banane Cavendish, qui est la principale variété de banane que nous consommons, je crois que c'est 90% de la production mondiale de bananes, qui est très fortement menacée par un champignon.
Je mettrais bien Sophie, la girafe, parce que je pense qu'elle va être amenée à disparaître avec le progrès des technologies. On est de plus en plus connectés. Je pense que les doudous vont devenir électroniques et que malheureusement, les enfants ne sauront plus ce que c'est que mâchouiller, tordre, etc.
Moi, je mettrais, en tout cas, que j'aimerais bien que ça disparaisse pas, ou en tout cas, j'aimerais bien qu'on s'en souvienne, la poésie.
Moi, j'aimerais bien mettre les drapeaux dans le bocal. Je voudrais qu'il n'y ait plus qu'un drapeau, qu'il soit le drapeau de l'humanité.
Pour être d'actualité, je propose de mettre dans le bocal le smog urbain, c'est-à-dire ce nuage photochimique de pollution qu'on viendrait condamner à la moitié du XXIe siècle.
Mais moi, je suis venue avec un morceau de corail. C'est quand même une merveille de la nature qui est en train de disparaître. Et c'est très dommage parce qu'on se dit que nos petits-enfants ne les verront peut-être pas à l'allure où ça se dégrade.
Moi, je mettrais le moteur à explosion, vous voyez. Ça, c'est sûr, quoi. Le moteur à explosion, dans 20 ans, il n'y en aura plus, quoi. Et je trouve ça dommage parce que j'adorais le bruit, moi.
Bah moi, je jette dans le bocal la poubelle. On aura un bac à compost, on aura éventuellement un bac à recyclage, etc. Mais la poubelle en mélange, qui sent mauvais, etc., pour moi, c'est un objet du passé.
Moi, je dépose la cruauté. Mais alors, c'est pas tout de suite, mais je pense qu'à long terme, le vrai enjeu, c'est l'empathie, c'est la solidarité, c'est l'accueil de l'autre, comprendre que justement, les bactéries, elles coopèrent entre elles. C'est pour ça qu'elles ont autant de succès. Eh bien, c'est en faisant de même que les humains arriveront à s'en sortir.
Alors, j'espère qu'il est très grand, parce que moi, j'y mettrais le système solaire tel qu'il est aujourd'hui. Il va disparaître, ce système solaire, et il est tellement merveilleux, magique, et il y a tellement de monde fascinant qu'on n'a pas encore exploré, que moi ça me rend malade de savoir qui va évoluer puis disparaître un jour, et nous avant, évidemment.
Voilà, merci à Maëlie Segel pour ce florilège. Et je vous invite à faire un tour sur la page Facebook de l'émission Demain la veille pour voir une version vidéo de ce qu'on vient d'entendre grâce à Amélie Fontaine. En passant d'ailleurs sur la page Facebook, n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous mettriez dans le bocal, chers auditeurs. Bertrand Piccard va y passer à la fin de l'émission. L'été dernier, vous avez bouclé donc avec André Borschberg ce tour du monde en avion solaire, Bertrand Piccard. Un an plus tard, quel est le souvenir le plus marquant de ce tour du monde? Est-ce qu'il y a une image qui revient plus souvent que les autres?
Il y a une image, c'était le 22 avril, j'étais en train de voler entre Hawaï et San Francisco, et on m'a connecté en direct par satellite avec Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, pendant la signature à New York des accords de Paris, avec 175 chefs d'État. Mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit, le but pour lequel j'ai initié Solar Impulse est en train de se réaliser. C'est vraiment de pouvoir avoir une action politique à partir du monde de l'exploration et amener un peu plus d'espoir, amener une autre vision avec des solutions plutôt que toujours des problèmes. Ça c'était un grand moment. Et puis, sur le plan émotionnel aussi, l'arrivée à Abu Dhabi.
Donc la fin du tour du monde.
Mais ça faisait 15 ans que je travaillais là-dessus. Il y avait eu beaucoup plus de problèmes que ce que les gens pouvaient imaginer. Ça a été beaucoup plus long et difficile que prévu. Et passer la ligne d'arrivée là où André avait décollé un an et demi plus tôt et avoir encore une heure et demie avant d'atterrir en attendant que le vent se calme, ça c'était magique parce que j'avais réussi, il n'y avait plus de stress, il n'y avait plus de peur, il n'y avait plus de crainte. Et puis tous les ingénieurs se sont relayés au téléphone satellite, j'ai pu les féliciter, les remercier, eux m'ont félicité, c'était un moment incroyable d'émotion.
Et vous y pensez tous les jours, encore aujourd'hui, Bertrand Piccard?
Mais je pense tous les jours à certains moments d'émotion extraordinaire, parce que c'est vrai que piloter un avion solaire qui fait absolument pas de bruit, absolument pas de pollution, c'est totalement magique. Mais de l'autre côté, c'est vrai que je suis pas tourné vers le passé. Le but, c'est de voir maintenant ce qu'on peut faire grâce à ce projet. C'est pour ça que j'ai initié ce projet. La première phase est réussie, maintenant il faut faire la deuxième.
Alors, puisque vous parliez à l'instant des accords de Paris, avez-vous rencontré Donald Trump depuis qu'il est à la Maison-Blanche?
Non, j'ai rencontré son ministre de l'Énergie. J'ai vu quelqu'un de très pragmatique. J'ai réalisé que finalement, Donald Trump était un peu obligé, pour des raisons électoralistes, de montrer que les États-Unis ne voulaient pas dépendre de l'étranger et se soumettre à des accords étrangers, mais que finalement, à l'intérieur des États-Unis, les énergies renouvelables et les technologies propres allaient continuer à se développer, simplement parce que les entreprises en ont besoin. Parce qu'on voit maintenant que le CO2, c'est pas simplement un facteur de pollution, c'est un marqueur d'inefficience et de perte de compétitivité.
Oui, enfin, ce que dit Donald Trump, c'est qu'il ne veut pas abîmer la croissance américaine avec des considérations environnementales.
Oui, mais la croissance américaine ne pourra pas croître s'il n'y a pas des énergies renouvelables et des technologies propres, parce que les seuls plans de croissance qui sont crédibles aujourd'hui pour créer des emplois, c'est d'isoler les maisons. C'est de mettre des pompes à chaleur au lieu des radiateurs électriques, c'est d'implanter dans les zones les plus ensoleillées ou venteuses des panneaux solaires ou des éoliennes. Tout ça, c'est des investissements qui sont extraordinairement rentables aujourd'hui. Et Trump est simplement en train de communiquer pour des raisons électoralistes.
Mais lui-même n'y croit pas, vous pensez ?
Mais moi, je pense que lui, il est très pragmatique. Et il voit bien que si on remplace les vieux systèmes polluants par des nouveaux systèmes propres, c'est un marché industriel fantastique. Et une grande partie de son entourage le sait et va continuer à aller dans cette direction-là.
On peut concevoir la protection de la planète sous l'angle de la rentabilité économique.
Alors, on est obligé, parce que le reste, ça a été prouvé que ça ne marche pas. Vous savez, la prise de conscience ne suffit pas. Revenir d'une belle expédition en disant « la Terre est belle, la vie est magique, il faut la protéger », c'est pas ça qui fait qu'un chef d'entreprise qui a 100 000 salaires à payer à la fin du mois va changer son type de production. Ce qui va faire qu'il changera son type de production, c'est qu'on lui propose une manière plus rentable de le faire. Qu'on lui montre qu'il y a des produits qui vont pouvoir arriver sur le marché et qui vont être achetés. Et ces produits peuvent être plus propres. Donc moi, je prône une croissance propre plutôt qu'un statu quo sale comme on a aujourd'hui.
Vous voulez dire qu'on peut faire le tour complet du monde en 80 jours ?
C'est bien ce que j'entends. Quand la science achèvera la conquête de l'air, il est probable qu'on fera le tour du globe en 80 heures.
Ouais, tout ça est bien joli, Fogg, mais je serais curieux de vous voir faire ça en 80 jours.
Vous êtes convaincu que j'échouerai ?
À tel point que je suis tout prêt ce soir à parier 5000 livres que vous échoueriez.
Parfait, j'accepte.
Tout cela est absurde. Allons, c'est plaisanté.
Un Anglais, monsieur, ne plaisante jamais quand il parie.
I love the colorful clothes she wears. And the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up
softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations, but not good. Good vibrations, but not so excitations, but not good. Good vibrations, but not so excitations.
Mais oui, quel bonheur, les bonnes vibrations des Beach Boys sur France Inter. Programmation musicale Thierry Dupin. L'explorateur suisse Bertrand Piccard est mon invité cette semaine. Je voudrais vous faire écouter un son d'archives que je trouve précieux, Bertrand Piccard. Il s'agit de Jean Cocteau, le poète et cinéaste, nous parle face caméra, ou plutôt il s'adresse à l'an 2000 de façon très solennelle. On est en 1962, Cocteau est assis à la table de sa salle à manger et il parle aux générations futures.
Nos futurs, le tien, le mien, demain la veille, sur France Inter.
Il est possible que ce qu'on appelle le progrès soit le développement d'une erreur. Jadis, c'était la guerre de 14, je visitais les usines de Gabriel Voisin. Gabriel Voisin était un grand constructeur d'avions. Je regarde ses avions et je lui dis, comment se fait-il, Voisin, que vos avions les plus neufs me semblent démodés? Et il m'a répondu, c'est très simple, nous avons commis une erreur, nous sommes partis de l'aile. Nous n'avons pas trouvé une chose correspondante à la roue, c'est comme si on avait fait les premières voitures avec des pattes mécaniques. Et j'ai tout de suite compris qu'on était là sur un faux rail. Eh bien, il est possible que, à l'heure actuelle, ce faux rail ait sauté, soit brisé, ait disparu, et que vous ayez trouvé complètement autre chose que je ne connais pas, mais que je prévois, c'est-à-dire l'antigravitation. Peut-être vous avez découvert, comme les Incas jadis, un or ou un métal inconnu qui paraît très léger, mais qui est en somme très lourd et qui échappe à la gravitation et que, au lieu de s'envoler, tombe. C'est-à-dire que l'antigravitation consiste à tomber au lieu de s'envoler.
Une archive INA qui date de 1962. Bertrand Piccard, que répondre aujourd'hui en 2017 à Jean Cocteau qui prévoyait l'antigravitation pour l'an 2000?
Vous savez, ce qui est fantastique dans cet enregistrement, c'est que Cocteau prend les paradigmes sur lesquels la société se base pour montrer qu'on peut changer de paradigme. De dire qu'un avion est une erreur parce qu'on s'est basé sur l'aile, c'est extrêmement intéressant parce que ce soit juste ou faux, ça permet de se remettre en question. Et moi, je pense que l'innovation, c'est justement jamais une nouvelle idée qu'on a. L'innovation, c'est quand on abandonne une certitude, quand on abandonne un paradigme et que ça nous permet de changer complètement de point de vue. Donc, sur le plan conceptuel, il a entièrement raison.
Alors, l'antigravitation.
Mais c'est vrai que c'est ça qui est beaucoup plus logique. maintenant, en attendant d'y arriver, on a des ailes pour voler, on a des moteurs pour avancer. Et quand on aura l'antigravitation, ben peut-être qu'on essaiera encore la délocalisation ou la dématérialisation.
Ben voilà.
Vous savez qu'on arrive maintenant à délocaliser, à dématérialiser des électrons à des centaines ou des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Donc, il y a des recherches qui vont là-dedans et ce qui paraît aujourd'hui complètement fou sera peut-être une réalité plus tard. Donc, il ne faut jamais dire que quelque chose est impossible.
On vous l'a trop dit, vous, au début de cette
aventure. Ah, mais moi, on l'a trop dit. Moi, j'en ai beaucoup souffert de ça. Tous les gens qui me disent, c'est impossible ce que tu veux faire. Puis je demande pourquoi c'est impossible. On me dit parce que personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. C'est une réponse imbécile, complètement idiote, parce que ça devrait être exactement l'inverse. Si quelqu'un n'a pas fait quelque chose jusqu'à... Enfin, si personne ne l'a fait jusqu'à maintenant, c'est la raison principale pour laquelle essayer, sinon ça restera impossible.
Alors, vous le disiez depuis le début, hein, que le projet Solar Impulse commencerait finalement après le tour du monde, que le succès de cette aventure servirait à crédibiliser les technologies propres dont on a besoin pour assurer notre futur. Oui. Vous en êtes où de ce chemin-là, aujourd'hui, un an après?
Alors, la Fondation Solar Impulse a lancé maintenant le but d'obtenir et de réunir 1000 solutions pour protéger l'environnement de façon rentable et de les amener à la fin de l'année prochaine pour COP24, fin 2018.
Donc 1000 initiatives, vous en êtes à combien?
Alors,
dans ce décompte
1000,
aujourd'hui
1000 solutions, d'accord. Ça peut être un produit, une idée, un processus industriel, une technologie propre, tout ça amené au sein de l'Alliance mondiale des solutions efficientes que nous sommes en train de constituer, amené par des individus ou des entreprises ou des start-up ou des institutions, et nous les réunissons. Et avec les partenaires de la Fondation Solar Impulse, nous pouvons offrir à tous les membres de l'Alliance la promotion de leurs solutions, l'expertise, l'analyse de la crédibilité de ce qu'ils offrent, et puis la mise en relation avec des investisseurs. Le but, c'est de permettre à des experts de se pencher sur ces solutions et de voir ce qui est crédible. Et je pense qu'on aura beaucoup plus que 1000 solutions, mais on retiendra les 1000 qui seront officiellement remise ensuite au chef d'État à COP24.
Et vous en êtes à combien aujourd'hui, Bertrand?
Mais aujourd'hui, on est à peu près à 200, mm-hmm. Alors qu'on est au tout début. Donc, c'est extrêmement positif de voir à quel point ces solutions affluent. Vous vous rendez compte que partout, on parle de problèmes, alors qu'il y a des solutions à disposition.
Alors, s'il fallait choisir une solution parmi ces 200 et quelques aujourd'hui, laquelle voulez-vous mettre en avant?
Ah, il y en a tellement.
C'est très cruel.
Mais il y en a une. Il y en a une qui est vraiment intéressante. C'est Ecotech Ceram, qui est une start-up française, qui est maintenant distribuée par la Fondation AQO. C'est une possibilité de stocker de la chaleur jusqu'à 1000 degrés dans des blocs de céramique qui sont transportés dans des conteneurs isolés. Ce qui veut dire que quand vous avez assez d'énergie solaire ou éolienne, vous chauffez votre céramique jusqu'à 1000 degrés. Et quand vous êtes dans l'intermittence où il n'y a plus de soleil ou plus de vent,
eh ben, la chaleur peut être restituée. Vous pouvez faire tourner une turbine pour produire de l'électricité. Vous pouvez chauffer votre maison, faire de l'eau sanitaire. Vous pouvez transporter ça ailleurs. Donc, c'est juste un exemple d'ingéniosité.
Mmh. Alors c'est
maintenant,
très malin.
Je peux vous en donner des centaines, mais ça, c'est très beau. Il y a aussi les bâtiments intelligents et digitalisés pour économiser de l'énergie qui sont maintenant développés par Engie. Il y a les taxis à hydrogène de Hyundai qui sont développés avec Air Liquide. Donc vous voyez qu'il y a même des grandes sociétés qui amènent des solutions.
On va continuer à parler d'énergie solaire. Tenez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on passe un coup de fil à l'une de vos compatriotes, Bertrand Picard ?
Mais avec plaisir. Qu'est-ce qu'elle fait ?
Bonjour Géraldine Fasnacht.
Ah, c'est Géraldine.
Bonjour.
Ils se connaissent évidemment. Vous êtes en ligne depuis la Suisse. Alors vous êtes une pilote de wingsuit. Alors rien qu'en entendant ce mot, certains ont déjà le vertige. Hein. Le wingsuit, c'est des combinaisons ailées qu'on utilise pour sauter dans le vide sans parachute. Et vous faites
pas avec un parachute quand même.
Oui,
mais
d'accord.
On vole avant sans parachute.
On en a pas besoin.
Parachute pour atterrir.
C'est ça, il y a des ailes entre les bras et les jambes, hein, c'est ça ?
Il faut un parachute exactement. Tant qu'il n'y a pas l'antigravitation de Cocteau.
Exactement. Géraldine Fasnacht, vous faites surtout partie de l'aventure Solar Stratos. C'est un avion solaire qui devrait voler dans la stratosphère l'an prochain, autrement dit à 25 km d'altitude. L'objectif, c'est d'atteindre la frontière de l'espace, en fait, en avion.
Exactement, donc c'est un magnifique projet donc piloté par Raphaël Domjean. Moi, j'ai une petite... place dans ce magnifique projet qui est surtout l'aspect sécurité. Et je trouvais ça assez magique qu'il me propose cette place-là, Raphaël, parce que c'est vrai que le base jump est souvent connoté comme un sport dangereux, de fou, etc.
C'est pas faux.
Et j'aimais bien Bertrand quand il disait que, ben, que impossible, c'est pas français, parce que c'est aussi mon avis, que rien n'est impossible si on ne sait pas et si on n'a pas un tout petit peu des visions un petit peu plus ouvertes sur la suite de ce qu'on peut réaliser. Et le base jump, c'est exactement ça. Et cette vision qu'a eu Raphaël sur le base jump, ça m'a plu. Parce qu'il m'a dit, moi, j'ai besoin d'un parachute très léger qui pourrait me donner la possibilité, si jamais, de m'extraire de la machine. Donc, j'aurais besoin que tu m'aides à apprendre à faire du parachutisme. Donc, je l'ai suivi dans sa progression pour qu'il puisse justement passer sa licence de parachutiste. Et maintenant, utiliser un parachute de base jump extrêmement léger au cas où il doit s'extraire de la machine. Donc, en gros, l'évolution des fous apporte beaucoup aux innovations d'aujourd'hui.
Mais à 25 000 mètres d'altitude, on ne peut pas s'extraire en parachute, si, Géraldine Fasnacht ?
Alors, il faudra. Donc, il sera équipé, donc bien sûr, d'une combinaison. Hein,
pressurisé, hein, comme un astronaute. Oui.
Une combinaison pressurisée et il aura donc ce parachute totalement adapté avec aussi une ouverture automatique, bien sûr, au cas où il est inconscient. Mais ce parachute sera extrêmement léger, pas comme les parachutes qu'on a encore aujourd'hui dans le milieu du parachutisme.
Alors, à titre de comparaison, les avions de ligne long courrier volent à 10-12 000 mètres d'altitude. Là, on sera à 25 000. C'est vertigineux. Parfois, vous vous dites que ce sera impossible ?
Je me dis jamais que c'est impossible, parce que ça fait pas partie de mon vocabulaire. Par contre, j'adore m'associer dans des projets avec des gens qui ont des visions extraordinaires. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite dit oui à Raphaël quand il m'a proposé de faire partie de l'équipe.
Solar Stratos, c'est un avion solaire, hein, pas une goutte de kérosène. Bertrand Picard, ça doit vous séduire ce projet, évidemment.
J'ai été voir le premier vol. Raphaël est un très bon ami et il a suivi Solar Impulse avec assiduité. Comme j'ai suivi son... projet précédent qui était de faire le tour du monde avec un bateau solaire. Il a fait le tour du monde avec Planète Solaire. Donc on se connaît, on se suit, on s'apprécie depuis très longtemps.
Les questions de sécurité dont parlait Géraldine sont vraiment pas un détail dans cette opération.
Non, parce que on est des explorateurs, on n'est pas des trompe-la-mort, ni des casse-cou. Donc le but c'est de faire ça de manière raisonnable.
Bertrand
Géraldine, dis à Raphaël que je peux lui prêter le parachute que j'avais sur Solar Impulse, parce qu'il porte chance. Je ne l'ai jamais utilisé, il porte chance.
On est ravis de servir à ça, à
c'est
France
vrai,
Inter.
Exactement. Mais je pense qu'on va assez se voir bientôt pour pouvoir en parler.
Absolument.
Très bien. Le Solar Stratos devrait en tout cas tutoyer les étoiles en 2018, hein, l'année prochaine. Merci beaucoup, Géraldine Fasnacht.
Moi, j'aimerais remercier d'avoir pu participer à cette émission et aussi Bertrand, parce que des gens comme lui nous permettent de toujours rêver plus loin. Et voilà, c'est des sortes d'énergie, des boules d'énergie qui donnent envie d'aller plus loin. Ouais.
Et impossible n'est pas suisse, on a bien compris.
Absolument, absolument.
Très bonne
merci
fin de journée
Géraldine.
À vous, merci beaucoup.
Bonne journée, au revoir.
Allez Bertrand Picard, un petit souvenir de l'aventure Solar Impulse.
profite de cette extraordinaire impression de pouvoir être comme dans un film de science-fiction. Un avion qui vole sans carburant, à l'énergie solaire, jour et nuit. C'est absolument fantastique. Je ne me lasse jamais de piloter cet avion.
Demain la veille avec l'explorateur, pilote et psychiatre Bertrand Piccard. Voici Olivia Ruiz sur France Inter.
Tout me dit que tu mens, tout me dit comment tu te tais. Tout me dit que c'est trop troublant pour ne pas être vrai. Tout en toi dit que je te plais, il faut sauter dans le grand bain. Tout en toi m'a percuté, c'est un foutu coup du destin. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon lit. Je le protégerai comme un oiseau défend son nid. Quelle bêtise as-tu fait? Qu'as-tu donc dans la tête pour ne pas te lancer? Rester figé à me mater. Mais qu'est-ce que tu attends? Car moi je n'oserai jamais. Il suffit d'un instant, clap de fin, le train c'est barré. Dis-moi ton secret, je le cacherai sous mon. Tous mes signaux sont envoyés. Ne perdons pas notre temps. Sois un homme et viens m'aborder. Tape sur l'épaule du destin. Il te mènera jusqu'à moi. Laisse-le te guider. Il te jettera dans mes bras. Dis-moi ton secret. Je le cacherai sous mon lit. Je le protégerai comme un oiseau défend son. Je les cacherai sous mon lit, je les protégerai comme un oiseau défend son nid.
Visite guidée de l'avenir avec Dorothée Barba sur France Inter.
Maintenant, ma vie rêvée me semble aussi réelle que ma vie éveillée. Je ne sais pas où commence l'une, où finit l'autre. Dans mes rêves, je suis invincible, libéré de mes problèmes. Plus rien dans ma vie ne me retient ici. Je voudrais mourir et me réincarner en oiseau.
Film d'Alan Parker en 1984, Birdie, l'histoire d'un homme traumatisé par la guerre que l'on tente de soigner en lui rappelant sa passion pour les oiseaux, lui qui voulait voler comme eux. Bertrand Piccard, puisqu'on a inventé l'avion en imitant les oiseaux, est-ce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux encore?
Mais vous savez, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que les premiers avions étaient faits avec de la toile et du bois. Ce qui veut dire que les Égyptiens auraient pu voler il y a 5000 ans. Et s'ils ne l'ont pas fait, ce n'est pas à cause du manque de technologie, c'est à cause de la mythologie qui faisait que l'homme n'avait pas le droit de voler. Léonard de Vinci a fait des maquettes d'avions qui auraient pu voler, et il ne les a pas essayés parce qu'il aurait été brûlé par l'Église et torturé par l'Inquisition. Donc on voit bien que ce n'est pas des nouvelles idées qu'il faut. Il faut arriver à se dégager de tout ce qui nous empêche d'avancer.
À quoi ressemblera l'avion du futur, selon vous, Bertrand Piccard?
Il faut l'imaginer très différent d'aujourd'hui. Il faut voir les paradigmes sur lesquels on se base et modifier ces paradigmes. Un des paradigmes, c'est le fait qu'on a besoin de carburant. Je pense que ça, il faut le changer. On va pouvoir voler avec des avions électriques. Moi, je vous promets que d'ici 9 ans et 2 mois, on aura des avions électriques qui voleront avec 50 passagers. Et je suis si précis parce que ça fait 10 mois que je dis dans 10 ans. Au début, on m'a dit « t'es de nouveau complètement fou ». Et quelques mois après, une entreprise américaine a annoncé qu'il travaillait sur un avion de 120 passagers complètement électrique pour 10 ans. Donc, on voit qu'on va avancer très très vite. Il y a des systèmes de, mais pratiquement comme des petites soucoupes volantes, hein, électriques qui vont transporter 2, 3, 4 personnes.
C'est les taxis volants.
Oui, des taxis volants. Il y a déjà des sociétés comme Airbus qui travaillent là-dessus. Uber travaille là-dessus. Donc on voit bien que le futur, avancera beaucoup plus vite que ce qu'on croit.
Il faudra un grand saut technologique pour passer au tout électrique dans l'aviation quand même.
Il faudra un immense saut technologique pour faire du transocéanique en tout électrique. Ouais. Mais pas du tout pour faire du court ou du moyen courrier. On pourrait déjà le faire aujourd'hui. Il suffit d'avoir un avion un peu plus grand pour transporter plus de batteries qui font plus de poids que le kérosène. Mais en même temps, on gagne énormément de poids puisqu'il n'y a plus des moteurs extrêmement lourds. Il n'y a plus de réservoirs. Il n'y a plus de tuyauterie. On est beaucoup plus efficient. Un moteur à combustion, ça a moins de 30% de rendement. Les moteurs électriques de Solar Impulse avaient 97% de rendement. Donc, on perdait quasiment plus d'énergie. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est qu'aujourd'hui, c'est les mauvais rendements et le gaspillage d'énergie qui causent les problèmes.
Alors, justement, les oiseaux ont des solutions pour économiser de l'énergie. C'est de voler en V. Est-ce qu'on peut imaginer que l'avion de ligne de demain volera en escadrille comme un oiseau migrateur? Plusieurs avions de ligne qui se serrent les uns les autres et qui volent ensemble?
Vous savez, moi j'aime beaucoup ce que vous dites là, parce que c'est vraiment de reprendre quelque chose qui est une évidence dans la nature, et puis d'essayer de l'appliquer.
Moi je suis dans un avion...
Non mais vous avez raison, quand vous traversez...
J'ai un peu peur si j'en vois un qui est tout proche à côté, je me dis bon c'est dangereux leur truc.
Oui mais quand vous saurez que ça économise 30% du carburant et que votre billet sera moins cher, vous serez tout content de voir qu'il y en a un à gauche, un à droite. mais c'est vrai que quand vous traversez l'Atlantique, chaque avion est individuellement contrôlé et avance dans un espèce de gros tuyau l'un derrière l'autre. On devrait effectivement les mettre en V, ce serait beaucoup plus logique.
Bon, on fait ça dès demain alors.
Mais on va en parler tout de suite à l'aviation civile.
Bertrand Picard, je vous présente notre sémillant chroniqueur, il s'appelle Alexandre Lazerge.
Bonjour Dorothée.
Bonjour Alexandre, une chronique transport en partenariat avec le magazine GQ.
J'ai eu une révélation, le convecteur d'Embrel.
C'est super Demandoc, c'est génial. Ça consomme de l'essence ordinaire ou du super?
Attention!
Aujourd'hui, puisque nous recevons un aviateur, Alexandre, vous avez décidé de nous mener en bateau.
Oui, Dorothée, vous savez bien que l'aéronautique a beaucoup emprunté de son vocabulaire et de ses pratiques à la marine. On évalue les distances en milles nautiques, en bateau comme en avion, et les Airbus ont leur feu de position rouge à gauche et vert à droite, exactement comme le Queen Mary.
Oui, et alors?
Eh bien, pour une fois, c'est l'inverse. Une pratique courante dans l'aviation, en l'occurrence le parachute ou le parapente, vient de trouver une application dans la navigation à voile.
Oui, vous parlez du kitesurf, c'est pas très nouveau.
Non, je veux vous parler de la voile gonflable pour bateaux qui s'inspire des parachutes de dernière génération. Sauf que la voile, elle, n'est pas horizontale au-dessus du surfeur, comme sur un kitesurf, mais verticale et en triangle, comme sur un dériveur. C'est un navigateur suisse, encore un, Édouard Kessy, qui a développé ce concept avec un autre Suisse, Laurent de Calbermatten, que Laure Bertrand Picard connaît bien, car vous étiez associé dans les années 80, je crois.
Absolument.
Quel est le rapport avec la voile, Alexandre?
Eh bien, Laurent de Calbermatten a conçu plusieurs modèles d'ailes rigidifiées par des lattes, ce qui permettait à la voile de former une sorte de caisson et de se passer de suspente. Vous savez, ce sont ces filins qui tendent les différentes parties d'un deltaplane. La voile, en se gonflant d'air, devient plus épaisse et assure ainsi la portance.
Bon, et appliqué à votre bateau, ça donne quoi, là, cette aile gonflée?
Alors, si on prend cette grosse aile et qu'on la place à la verticale autour d'un mât, on obtient un gréement de voilier facile à utiliser. Il faut encore tirer des bords parce qu'on ne peut pas avancer face au vent. Mais plus besoin de tendre ou de relâcher la voile en fonction de l'angle du vent et du cap. La voile le gère toute seule. C'est en fait le même principe que sur les bateaux de la Coupe de l'América qui ont une aile verticale aussi. Mais dans le cas de la voile gonflable de nos amis suisses, elle est bien plus légère puisqu'elle ne contient que de l'air.
Et ça marche. Hein. Je renvoie les auditeurs à la page Facebook de l'émission. On a mis une vidéo pour voir ce bateau sur la page Demain la veille.
Oui, justement, on y voit Édouard Kessy à la barre de son bateau qui a une voile noire, gonflée d'air sur un lac suisse. Il montre aussi comment la voile peut se ranger facilement et même le mât se replie sur lui-même puisqu'il est télescopique. Enfin, la preuve que c'est le futur, Dorothée. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul prototype de ce bateau à voile gonflable en attendant une éventuelle commercialisation et surtout des applications pour des bateaux de plaisance plus gros, voire même des paquebots ou des cargos. Moralité, puisque les Suisses naviguent sur les lacs, on peut dire que cette invention de voile gonflable donne des ailes aux marins d'eau douce.
Très amusant. Allez, je précise que c'est un autre aventurier, et pas des moindres, qui fait la une du nouveau numéro du magazine GQ, c'est Mike Horn. Encore un Suisse, oui. Décidément, ils sont partout.
Oui, et vous trouverez aussi un article sur la course The Bridge qui démarre aujourd'hui entre un paquebot, le Queen Mary 2, contre des maxi-trimarans à voile de François Gabart ou Thomas Coville, entre Saint-Nazaire et New York, et il n'est pas sûr que ce soit le paquebot qui gagne.
Merci beaucoup Alexandre Lazerge, chronique à réécouter en voiture, en bateau, en dirigeable ou en deltaplane, grâce au podcast et à franceinter.fr. Bertrand Picard.
Vous avez quand même un Français qui est en train de faire quelque chose d'incroyable. C'est Alain Thébault avec le Sea Bubble.
Qui va voler au-dessus de la Seine d'ici quelques mois, quelques années.
Exactement. Mmh. La ville de Paris, avec Anne Hidalgo, est très intéressée par ce système-là pour désengorger le trafic de Paris. Vous avez ces petits bateaux qui déjaugent sur des foils, totalement électriques, et qui pourront déplacer les passagers sur la Seine.
Là aussi, on a un changement de paradigme, selon vous, Bertrand Piccard?
Mais oui, parce que déjà, on passe à l'électrique. Je pense qu'il faut vraiment réaliser que le moteur à combustion, c'est quelque chose qui doit appartenir au passé. Et puis diminuer la résistance. On a toujours cru qu'un bateau devait toucher l'eau, mais un bateau peut très bien déjauger en étant sur des foils. Ça fait longtemps qu'il y a des prototypes qui fonctionnent comme ça. Je me rappelle que sur le lac Léman, il y en avait un en 1964, mais ça n'a pas du tout été suffisamment utilisé. Et maintenant, je crois que quand on a enfin pris conscience du besoin d'être plus efficient sur le plan énergétique, on voit qu'il y a des solutions anciennes qui s'imposent absolument aujourd'hui.
Et puis, utiliser les fleuves pour les transports en ville, c'est frapper au coin du bon sens.
Mais totalement. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait davantage ?
Leur sixième album est sorti il y a quelques jours. D'aucuns estiment que c'est le disque de l'été. Voici venir Phoenix sur France Inter. Premier extrait de ce nouvel opus, J-Boy. Vous écoutez Demain la veille, Clément Vuillet est aux manettes avec Marie-Hélène Fauquet. Préparation, Karen Deshayes et Charles Creton. Lost, but mostly the two of us.
Something I was doing for a reason at all. They hit me higher than a disco ball. But you talked them and I let me go. So Picasso, Michelangelo. Something about the juice you wear. Shiny, shiny fingers on your wrists. And like a masquerade ball, you trapped in a vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods. Inside of an alley, you're out of words. Well, I thought it was rain.
Just because of you, I need things I have to go.
Hameau, c'est le titre du nouveau disque de Phoenix, toujours en compagnie de Bertrand Piccard, explorateur, pilote de l'avion solaire qui fit le tour du monde l'an dernier. Et je donne à présent la parole à un romancier, comme chaque semaine, Antoine Bello, dont le nouveau roman devrait vous plaire, en tout cas par son titre, Bertrand Piccard, L'homme qui s'envola.
Demain la veille, avec Dorothée Barba, raconte-moi le futur.
Bonjour Antoine Bello.
Bonjour Dorothée.
À quoi ressemblera le monde, à votre avis, quand on sera grand ?
Comme tout le monde, j'ignore de quoi demain sera fait. La chose qui me fait réfléchir, c'est l'articulation entre l'individu et le collectif. J'ai l'impression qu'on est à l'aube de grandes transformations, avec des nouvelles inventions, des nouvelles technologies, des nouvelles pratiques, que ce soit Facebook, que ce soit Wikipédia ou les nouvelles technologies, évidemment, les algorithmes et l'intelligence artificielle qui arrivent. Et toutes ces inventions, elles ont comme caractéristique de pouvoir nous apporter le meilleur comme le pire. Wikipédia, c'est un outil de diffusion du savoir. Et puis en même temps, ça peut être un outil de propagation de rumeurs, d'idées fausses, quelque chose d'assez facilement manipulable. Facebook est un outil de cohésion, rester en contact avec sa communauté, avec ses amis, avec sa famille. Et puis à l'inverse, Facebook, c'est aussi cet endroit où on passe tellement de choses à regarder ce que font les autres et à expliquer ce qu'on a fait, qu'on a des existences par beaucoup d'aspects moins riches qu'avant.
L'enfant qui naît en 2017, quel sera son rapport au collectif quand il aura 40, 50 ans ?
C'est ce que je ne sais pas. Je lisais récemment un livre d'une philosophe américaine qui s'appelle Ayn Rand, qui a écrit ce livre dans les années 30. Elle venait de Russie, donc elle avait été très marquée par l'expérience collectiviste. Et dans son livre, le narrateur disait « nous ». On ne parlait plus en disant « je », on disait « nous » parce qu'on était tous, voilà, une partie d'un tout. Et se mettre soi-même en avant était le crime ultime. Et d'ailleurs, enfin, les personnages ne l'envisageaient même pas. J'ai parfois l'impression, quand je vois cette mouvance, enfin, mes enfants, quand je vois leur fil Facebook, quand ils me racontent leurs expériences, tout ça, j'ai l'impression en effet d'une sorte de communauté protéiforme. Et évidemment, ils ont des opinions très très fortes, puisque s'il y a un qui est considéré comme référent sur le sujet a décidé que tel chanteur est nul, bah, ce chanteur est véritablement nul. Moi, ça pour le coup, ça me terrifie véritablement. Je crois qu'il faut réfléchir à ces choses-là et puis réaliser évidemment que dans certains cas, il y a des points de non-retour. C'est-à-dire que quand on aura recouru beaucoup plus massivement à l'intelligence artificielle, il y a un risque que les intelligences artificielles commencent à décider un certain nombre de choses à notre place. Et le jour où on s'en rendra compte et on voudra revenir en arrière, ce ne sera peut-être même plus possible. Parce qu'on n'aura plus les savoir-faire, parce qu'elles ne nous rendront tout simplement pas la main à ce moment-là. Après, il y a encore un autre degré qui est ce qu'on a appelé la singularité, c'est-à-dire le moment où on craint que ces intelligences artificielles ne développent une forme de conscience ou qu'en essayant d'obéir à leurs objectifs, elles ne fassent un peu d'excès de zèle et elles ne nous proposent des solutions qui finalement ne nous conviendraient pas du tout. Donald Trump pourrait lui dire « Oracle, Oracle, s'il te plaît, développe le PNB des États-Unis pour augmenter la taille de l'économie. » La première décision de l'intelligence artificielle sera d'envahir le Canada parce qu'on va augmenter le PNB de 15% en faisant ça. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite. Mais si on n'a pas dit à l'avance à l'intelligence artificielle ce qu'on souhaite ou plus exactement les moyens qu'on s'interdit d'utiliser pour l'atteindre, on risque d'avoir des très mauvaises surprises. Et là, on voit que la grande difficulté, c'est de prévoir des cerveaux qui ne pensent pas comme nous, capables de nous fournir des solutions auxquelles nous, on n'aurait même pas pensé, tellement ça nous paraît littéralement inconcevable.
Antoine Bello et sa vision du monde quand on sera grand, auteur chez Gallimard de L'homme qui s'envola, c'est son 9e roman, l'histoire d'un homme qui décide de disparaître, de changer de vie parce qu'il a l'impression que le temps lui échappe. Je suis en train de le lire et je le dévore, je vous le recommande Bertrand Piccard. Vous êtes mon invité pour la dernière émission de la saison. Cette idée de point de non-retour dont parlait Antoine Bello à l'instant, est-ce que ça vous parle ?
Mais oui, mais c'est une évidence, il y a des points de non-retour qu'on a déjà franchis sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir un monde qui n'a pas de voiture. On ne peut plus avoir un monde qui n'a pas d'ordinateur ou de téléphone portable. Et je peux même vous dire qu'à l'époque des hommes des cavernes, on ne pouvait plus revenir en arrière après avoir commencé à tailler des silex, parce qu'on voyait bien qu'on en avait besoin.
Donc, ce n'est pas forcément inquiétant, ce point de non-retour.
Mais c'est-à-dire que c'est inquiétant suivant ce qu'on en fait et suivant dans quel domaine. Il y a un point de non-retour dont on est très proche, c'est celui d'avoir fait disparaître la banquise au pôle Nord, à tel point que l'océan va absorber toute la chaleur au lieu de la réfléchir grâce à la glace. Donc ça, on est très très proche de ce point-là. Et quand on l'aura franchi, ce sera une catastrophe totale pour l'humanité.
Alors parlons à nouveau de mobilité aérienne de demain, Bertrand Piccard. L'un des appareils volants dont il a été beaucoup question cette semaine au Salon du Bourget, c'est le dirigeable. Les dirigeables vont-ils connaître un nouvel âge d'or, à votre avis ?
Bon, ça fait 60 ans.
Oui, voilà, ça fait
60 ans que
le
dirigeable revient, qu'il y a des projets qui font faillite. Le seul beau projet de dirigeable que je connaisse, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais que je connaisse, c'est celui de Gérard Felzer, qui a un dirigeable grand luxe avec de l'énergie solaire, un peu comme une espèce de grande lentille, qui au lieu d'être attaché à un mât, ce qui le rend très très vulnérable quand il y a du vent ou des tempêtes, arrive à se mettre un peu dans une espèce de docking station. Il arrive et il s'encastre dans un port d'attache et le toit du dirigeable devient le toit du bâtiment. C'est un très beau projet. Mais sinon, il faut bien voir que le dirigeable est tellement encombrant que la plupart du temps, on ne sait pas quoi en faire.
C'est un paquebot des airs. En revanche, ça peut être très intéressant pour le fret, pour le transport de marchandises. C'est ce que répondent ceux qui le relancent aujourd'hui.
Oui, je pense pas aujourd'hui que le dirigeable aura une très très grande utilité. Vous avez déjà du fret avec des bateaux. Et le dirigeable va consommer forcément plus d'énergie qu'un bateau. Donc je ne suis pas absolument sûr que ce soit fondamentalement une grande invention. Mais maintenant, je serais ravi d'être surpris.
Alors vous disiez tout à l'heure, Bertrand Piccard, que l'avenir de l'avion électrique était assuré, selon vous. Selon les prévisions d'Airbus, le trafic aérien mondial va tripler d'ici 2036 avec l'essor des classes moyennes dans le monde entier. Est-ce qu'il est envisageable, dans ces conditions, que l'avion du futur soit propre ?
C'est une nécessité, mais il ne faut pas non plus s'acharner contre l'aviation en tant que gros pollueur, parce qu'aujourd'hui, l'aviation consomme 3% de l'énergie de la planète. Ce n'est pas beaucoup. Les 97 autres sont dans des bateaux, mais surtout dans des voitures et dans des maisons mal isolées. Dans le gaspillage énergétique dont nous sommes victimes aujourd'hui, parce qu'on utilise encore des très très vieilles technologies. Des systèmes de chauffage, d'ampoules électriques, d'isolation, de distribution d'énergie qui ont 100 ans. Donc, c'est ça qu'il faut moderniser. Alors, l'avion sera plus propre, mais essayons déjà qu'on ait des voitures plus propres, à hydrogène ou électrique à batterie. Essayons d'avoir des maisons bien isolées. Remplaçons déjà tous les chauffages électriques à résistance directe par des pompes à chaleur. Vous divisez par 4 la consommation d'énergie. Si vous avez une pompe à chaleur plutôt qu'un chauffage électrique à résistance directe, il faut des smart grids, il faut digitaliser complètement la distribution et la consommation d'énergie pour qu'elle soit consommée au bon endroit, de la bonne manière et qu'on arrête le gaspillage. Tout ça, c'est fondamental. Alors, ça s'appliquera aussi dans l'avion. Mais
trouver des matériaux aussi qui soient plus écolos dès la conception de l'avion.
Il faut des matériaux plus légers, c'est sûr. Et il faut des processus également plus logiques. Vous savez, aujourd'hui, il faut être plus logique. Pas forcément plus écologique, mais plus logique. Et l'environnement sera protégé. Si vous avez un avion qui arrive avec une pente constante en approche, au lieu de faire des paliers, sur un 747, un jumbo jet, vous économisez une tonne de kérosène par atterrissage. C'est monstrueux à l'échelle du monde.
Est-ce que je partirai un jour en vacances à bord d'un avion de type Solar Impulse ?
Solar Impulse fabriquait sa propre énergie, sa propre électricité, disons, avec l'énergie solaire. C'est ce qu'il fallait qu'on obtienne pour pouvoir faire des vols de plusieurs jours et plusieurs nuits au-dessus des océans. Mais si vous partez en vacances, il n'y a pas besoin de faire du vol perpétuel et de voler plusieurs jours et plusieurs nuits. Donc vous volerez avec des avions électriques qui ne seront pas forcément solaires. Ils auront des batteries qui seront chargées au sol. Ça pourra être avec de l'électricité propre, en tout cas c'est ce que j'espère. Et je vous garantis que... Et je ne dis pas ça parce que vous êtes encore jeune, parce que même si vous étiez vieille, je vous dirais, vous arriverez encore à vivre assez longtemps pour être dans un avion électrique.
Si vous pouviez voyager dans le futur, Bertrand Piccard, en quelle année aimeriez-vous aller pour vérifier que les choses ont tourné comme vous le souhaitiez en 2017 ?
Moi, j'aimerais faire quelques petits échantillonnages.
Non, un seul, j'ai dit.
Non. J'aimerais voir tous les 20 ans si on est sur une pente d'amélioration ou si on continue à être sur une pente de descente. D'insouciance et de stupidité, parce que notre monde fonctionne avec beaucoup de stupidité. Parce qu'on imagine qu'on va pouvoir vivre longtemps en épuisant les ressources naturelles, en polluant la planète, en rendant des gens malades avec la pollution. C'est aberrant et chacun essaye de repousser le problème plus loin en se disant Moi, j'arrive à tenir encore jusqu'à l'âge de la retraite, j'arrive à tenir encore avec mes activités. C'est le suivant qui tombera, mais ça fait rien. Il faut que quelqu'un prenne la responsabilité aujourd'hui de dire on va changer. Et le monde politique a une très très grande responsabilité là-dedans. Il faut arrêter de dire on va innover plus tard. Il faut utiliser ce qu'on a déjà aujourd'hui pour changer.
Allez, comme promis, Bertrand Piccard, il est temps d'ouvrir notre bocal. On met sous cloche des reliques du temps présent, tout ce qui va disparaître dans le futur, que ce soit une bonne ou une mauvaise nouvelle d'ailleurs. Que déposez-vous dans notre bocal ?
Le moteur à combustion, ouais. Le moteur thermique. C'est une aberration.
En son temps, c'était une belle invention.
Mais c'était une belle invention autrefois. Mais je vous rappelle que le record de vitesse, la première voiture qui a dépassé les 100 km à l'heure, était une voiture électrique. Et que malgré ça, tout le monde est parti sur le moteur à combustion. Et aujourd'hui, quand vous voyez les dégâts que ça a fait à l'environnement, aux ressources naturelles, à la santé des gens dans les villes, à la planète en général, les guerres qu'il a fallu pour obtenir du pétrole, pour alimenter ces moteurs à combustion, vous dites que c'est une immense erreur. Alors, si autrefois, quand il y avait 200 000 voitures sur Terre, c'était tout à fait acceptable, aujourd'hui, avec plusieurs milliards, ça ne l'est plus. Et ça, il faut le remplacer le plus vite possible.
Allez, on prend le pari. En quelle année le moteur à explosion, le moteur à combustion sera-t-il aussi ringard que le Minitel ?
Le plus vite possible. Mais aujourd'hui, on pourrait déjà.
Oui.
Aujourd'hui, on pourrait. Les gens disent souvent, ouais, mais la Tesla, c'est cher. Ben, vous avez des Hyundai totalement électriques, moi je roule avec ça, qui sont au prix d'une voiture normale.
Et on vous répond aussi, c'est de l'énergie nucléaire.
C'est de l'énergie qui peut être éolienne, qui peut être solaire, qui peut être géothermique. Et c'est là-dedans qu'il faut aller. Vous savez, vous avez des gens qui sont des pionniers. Vous avez Engie qui est en train de se désinvestir maintenant de tout ce qui est énergie fossile pour se mettre entièrement dans le renouvelable. Donc, il y a de l'espoir. Ce qu'il faut, c'est y aller vite. Il faut que les autres emboîtent le pas, pas qu'il y ait quelques pionniers isolés. Il faut que tout le monde le fasse.
Bertrand Piccard, je renvoie les auditeurs à votre livre coécrit avec André Borschberg, Objectif Soleil. C'est passionnant, le récit d'un exploit, mais aussi une ode à l'esprit pionnier et l'histoire de la relation entre vous deux, l'histoire de votre amitié, de votre rivalité aussi, et de ce que chacun a appris de l'autre. Objectif Soleil aux éditions Stock. Un immense merci Bertrand Piccard.
Avec plaisir.
Merci d'être passé nous voir. Je vous souhaite encore de belles aventures. Il y en a beaucoup devant vous.
Mais absolument.
Et dès le week-end prochain, ce sera le début de la grille d'été sur France Inter. Et je vous recommande vraiment de ne pas rater ce même créneau, 17h, 18h le dimanche, car vous entendrez une série documentaire signée Caroline Gillet. Avec cette question, tenez, est-ce qu'on grandit en restant toujours la même personne à l'intérieur ? Ça s'appelle « À ton âge ». Et c'est une pépite à ne pas manquer. Retrouvez Caroline Gillet dimanche prochain à 17h. Et moi, je vous retrouve le midi pendant tout le mois de juillet pour le débat de midi du lundi au vendredi. Très belle soirée à tous sur France Inter.